Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, comment mesurer l'islamisation de la société française ? L'islamisation à visage découvert, c'est le sous-titre de l'enquête menée en Seine-Saint-Denis par de jeunes journalistes sous la direction des grands reporters du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Leur ouvrage, Inch'Allah, publié chez Fayard, connaît un important retentissement depuis sa sortie. Il décrit à travers une série de faits, les auteurs insistent sur cette notion, le phénomène d'islamisation dans ce département francilien. Cet ouvrage n'est pas la première initiative du genre. Au mois de septembre, l'Institut Montaigne a publié un rapport sur la fabrique de l'islamisme. Son objectif, mieux connaître ce phénomène et sa diffusion dans la société. Pour ce faire, les auteurs disent avoir consulté plus de 200 ouvrages académiques et rapports scientifiques et mené de nombreux entretiens. Alors, chacune de ces enquêtes a été critiquée au motif qu'elle rendrait compte de manière biaisée de ce phénomène d'islamisation. Et c'est d'ailleurs une constante propre à ce sujet. Soit on reproche aux auteurs d'exagérer le phénomène, soit de le minimiser. Alors, comment mesurer l'islamisation de la société française ? C'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de quatre invités. Rachid Benzine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur, qui dépend de la faculté protestante de Paris. On vous doit notamment parmi vos nombreuses publications Nour, Pourquoi n'ai-je rien vu venir, que vous avez publié au Seuil en 2016. Un texte qui s'est transformé en pièce de théâtre, Lettre à Nour, que vous avez joué quelques jours au Bouffe du Nord à Paris et qui sera repris à partir de 22 novembre au Théâtre Antoine, toujours à Paris, avec dans votre rôle Éric Cantona. Pour discuter avec vous, Anne-Bénédicte Hoffner et Flore Thomassé. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Si je me permets de vous présenter toutes les deux en même temps, c'est parce que vous êtes l'une et l'autre journaliste au quotidien La Croix et que vous avez co-signé, c'était à la mi-octobre, une enquête intitulée « Vivre près d'une mosquée salafiste », en l'occurrence à Écuilly, dans les Yvelines, une mosquée qui a fermé en novembre 2016 pendant l'état d'urgence. Vous y êtes retourné pour voir ce que ça voulait dire de vivre auprès d'une mosquée de cette nature. Je précise à Anne-Bénédicte Hoffner que vous êtes journaliste au service religion et spécialiste du monde musulman. Et puis vous, Flore Thomassé, vous êtes journaliste au service police-justice. D'ailleurs, juste un mot, c'était important pour vous, Flore Thomassé, d'avoir deux spécialités distinctes pour mener une même enquête.
En tout cas, une fois qu'on a été sur le terrain, effectivement, pour nous, ça a été un énorme apport et un énorme enrichissement, à la fois dans la manière dont on a l'une et l'autre attaqué le sujet, dans les contacts qu'on avait et dans les questions qu'on se posait. C'est-à-dire qu'effectivement, notre but, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui pouvait se passer au sein de la mosquée. Mais donc ça, c'était plutôt, entre guillemets, la partie d'Anne-Bénédicte. Et comment ça influençait la société, la vie du quartier autour, qui était plus mon angle à moi. Et c'est effectivement dans la confrontation de nos deux regards qu'on a trouvé une certaine subtilité, disons, pour essayer d'aborder le sujet de manière... la moins exagérée ou la moins minimisée possible.
Alors c'est justement la confrontation qu'on va tenter ce soir pour essayer d'avoir une vision la plus claire possible de ce phénomène d'islamisation en condition d'accepter ce terme même. Et pour en discuter, il me manque un invité, c'est le quatrième, c'est Fabien Truong. Bonsoir. Fabien Truong, est-ce que vous m'entendez ? Alors, on va essayer peut-être de l'appeler ou de le rappeler, car ce serait intéressant de l'avoir au téléphone. Vous aurez compris qu'il n'est pas en studio, Fabien Truong, qui est sociologue. Et ben, j'attends en régie qu'on me fasse signe dès qu'il est en ligne. On va commencer justement, si vous le voulez bien, tous les trois, pour l'instant, par ce terme d'islamisation. Quelle définition vous donneriez à ce terme ? Et est-ce que c'est un terme avec lequel vous êtes à l'aise, Rachid Benzine ?
Les mots n'ont que des usages, donc c'est important, je dirais, de spécifier, de définir le concept lui-même. Si nous entendons par islamisation en termes de parallèle d'évangélisation, j'ai envie de vous dire que toutes les religions cherchent finalement à s'étendre. Si on entend par islamisation autre chose, moi j'entends finalement trois éléments. Tout d'abord, il y a 50 ans, je dirais, ce qu'on appelle les musulmans étaient 300 000. Aujourd'hui, ils forment 10% de la population. Donc ça me semble tout à fait normal qu'il y ait cette visibilité de l'islam. Dans un second temps, il y a cette visibilité de l'islam en termes de pratique. Et on le voit bien dans un certain nombre de quartiers populaires. Et dans un troisième temps, il y a quand même un phénomène de réislamisation depuis les années 70 qui touche le monde entier avec des idéologies quand même, que ce soit le salafisme wahhabite d'un côté ou les frères musulmans. Et il est normal que tout cela puisse avoir un impact. La question, c'est quel type d'islamisation nous mettons en avant. Et ça pose la question de la fonction du religieux aujourd'hui. Quelles sont les fonctions que auxquelles répondent le religion, les religions ou le religieux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le religieux, dans un certain nombre de quartiers populaires, il répond d'abord à des besoins identitaires, il devient une source d'espérance, et il devient même pour certains un tremplin politique. Donc on voit bien que il y a aujourd'hui, dans la société française, une visibilité du religieux, alors que pendant pratiquement un siècle, cette visibilité-là avait aussi disparu. Donc il ne faut pas tomber, me semble-t-il, dans le déni. Il y a certaines problématiques au regard du religieux dans l'espace public, mais il ne faut pas non plus, tout lire à travers ça, parce qu'il faut aussi, me semble-t-il, avoir beaucoup de nuances et ne pas simplement accumuler des faits qui viendraient soutenir une thèse.
Et comme vous le disiez, Rachid de Benzine, tout dépend aussi ce que l'on entend démontrer à travers, ou montrer en tout cas à travers ce terme d'islamisation. Et Bénédicte Hoffner, est-ce que c'est un terme que vous utilisez justement dans le cadre de vos articles et de vos reportages?
Alors, je crois jamais, mais ce serait à vérifier, mais je crois pas. Là, il se trouve que avec Flore, notre projet, c'était de voir ce qu'était cette réalité qu'on dit salafiste et qui elle-même mériterait d'être précisée. Il se trouve qu'on s'est demandé où aller pour voir ça. Parce que, enfin, c'est ce que dit Rachid, en fait, on a un projet et on cherche l'endroit et on cherche le fait qui va montrer ça. Il se trouve que notre chance, et on était très heureuse de ça, on est allé dans une ville... pardon, dont la mosquée a été fermée par la préfecture pendant l'état d'urgence. Donc il y a eu une forme de constat de la part des autorités publiques que là, oui, il y avait un discours qui était déviant, dangereux, etc. Donc il y avait une espèce de validation par l'autorité publique que là, c'était une mosquée salafiste. Mais évidemment, une fois qu'on y est, et avec toutes les interviews qu'on a menées, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas un lieu de culte salafiste ou une personne salafiste. Il y a des degrés différents. Plein de nuances à apporter.
Je me suis d'ailleurs posé la question, Flore Thomassé, de la raison de votre choix d'une ville où la mosquée salafiste avait été fermée. C'est-à-dire que votre reportage, il consiste en un recueil de témoignages où ce sont des gens qui racontent ce que c'était que de vivre avec cette mosquée salafiste-là et l'emprise qui pouvait être la sienne et notamment celle de son imam sur une partie de la population. Pourquoi ne pas avoir choisi d'aller dans une ville où une mosquée qui pouvait être décriée justement pour une forme de radicalisation mais qui aurait été encore ouverte? C'est parce que c'était plus facile d'obtenir des témoignages a priori?
Non, c'était en fait la manière dont on a procédé, c'est qu'en fait on s'est dit que justement il peut y avoir des débats sans fin sur l'islamisation, le salafisme, qui l'est pas, etc. Là, on avait, en partant d'une mosquée qui avait été fermée pendant l'état d'urgence, on avait quand même un constat partagé sur le fait qu'il y avait eu là un problème, qu'il y avait eu là un imam salafiste. C'était en tout cas un constat qui était posé par les pouvoirs publics. Alors on peut toujours le remettre en cause aussi, mais on s'est dit qu'à ce moment-là il y avait quelque chose d'un peu objectivé. Et après, nous, notre enjeu, c'était de décrire aussi la réponse qu'il y a eu aussi face à ce phénomène qui s'est produit là-bas, la réponse des pouvoirs publics, la réponse de la population, la réponse des associations aussi qui étaient autour, parce que quand on parle d'islamisation, on parle quand même aussi de l'éventuel rapport de force qui peut y avoir entre d'un côté les lois de la République, nos valeurs partagées en tant que société, et puis une certaine vision, une certaine pratique de l'islam qui vient défier. Donc on voulait vraiment rendre compte de cette tension qu'il peut y avoir entre les deux bords, quoi.
Il y avait l'idée, Anne-Bénédicte Hoffner, d'avoir un lieu qui pouvait en tout cas être exemplaire de la progression du salafisme, ou bien au contraire d'aller dans un endroit que vous considérez comme exceptionnel.
Alors vraiment les deux. Alors voilà, en y allant, vraiment on voulait les deux, c'est-à-dire un lieu vraiment salafiste entre guillemets. Vous voyez pas les guillemets, mais voilà, je les mets. On était très consciente de se dire, on avait choisi l'endroit en allant voir la préfecture, il se trouve, et c'est à partir des notes des services de renseignement. C'est les services de renseignement concrètement qui disent là, ils repèrent des salafistes, etc. Donc forcément, déjà, quand on part de là, on sait bien que il y a un regard qui est posé sur le phénomène. Et donc on voulait un endroit vraiment salafiste et un endroit où il y avait vraiment une réaction, des mesures, une réflexion qui était menée sur qu'est-ce qu'on fait autour de cette mosquée. Donc avec la réponse de la... Ça nous paraissait intéressant d'ailleurs de voir cette fermeture, parce que finalement, elle punit tous les musulmans, tous les fidèles qui pratiquent et qui veulent prier. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont possibles? Et quelle est la réponse aussi aux des gens autour qui ne pratiquent pas, aller voir les écoles, les médecins, les assistantes sociales, les voilà. C'était ça qu'on voulait voir en allant à Equevilly.
Rachid Benzid.
Non, c'est intéressant en tout cas de procéder par rapport à je dirais cette impression, ce qui est vécu au quotidien, effectivement, que ce soit les éducateurs, que ce soit l'école, comment ce type de religieux est déterminé et quels sont les comportements. Et je crois que là où le terme pose problème, c'est c'est-à-dire que derrière le mot islamisation, il y a l'idée que dans ces quartiers, il va y avoir une sécession avec l'idée de la République. Et c'est pour ça que je pense que les mots, lorsqu'on les choisit, notamment dans le champ médiatique ou dans le champ social, ils ont des impacts sur la question de l'imaginaire politique et de l'imaginaire religieux que ça va. Il est clair que moi je parle beaucoup plus de la notion de la salafisation des esprits dans un certain nombre de quartiers, comment l'islam est en train de changer à l'intérieur, mais on ne peut pas dénier qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont liés aux religieux, qui essaient de créer de la rupture, qui essaient de montrer de la visibilité en termes de militantisme. Et il y a aussi quand même la grande majorité, je dirais, de cet islam tranquille. Et c'est pour ça que lorsque nous avons des enquêtes comme cela, il faudrait pas que ça soit des enquêtes à charge. Il s'agit aussi de montrer la complexité, parce que sinon on a l'impression que il y a une invasion de l'islam dans l'espace, des quartiers aujourd'hui.
Mais est-ce que le risque inverse n'existe pas de la même manière, Rachid Benzine, c'est-à-dire des enquêtes qui se voudraient à décharge et où, par exemple, alors c'est ce que dit notamment dans une interview celui qui devrait être notre quatrième invité, mais qu'on essaie toujours de joindre, à savoir le sociologue Fabien Truong. Je vais quand même citer son ouvrage, parce que si jamais il n'a pas l'occasion d'en parler, moi je l'aurais cité une fois. Loyauté radicale, l'islam et les mauvais garçons de la nation, aux éditions de la Découverte, on est en train de le joindre. C'est que, est-ce qu'on Il n'y a pas le risque, comme je vous disais, Rachid Benzine, c'est-à-dire de vouloir prouver l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème avec l'islam. Et on peut tout aussi bien peut-être, alors je vais poser la question après aux journalistes de La Croix, mais à Equevilly, trouver des témoignages qui témoigneraient que finalement le vivre ensemble, il existe et que tout va bien.
Vraiment, en tout cas, dans tous mes écrits, c'est vraiment pas ça. Dans mes écrits,
non, je dis pas à vous.
Non, mais il s'agit de montrer une réalité et de montrer la complexité de cette réalité et comment cette réalité ne cesse de bouger.
Pas ce qui fait défaut, la complexité, c'est-à-dire dans un sens, soit pour prouver l'islamisation, soit pour démontrer le contraire.
Absolument, moi je crois qu'il faut aller vers la nuance et la complexité, et ça prend du temps. Je dirais, il y a, par exemple, moi j'habite à Trappes, on a à la fois ce phénomène, je dirais, de processus de salafisation des esprits, mais en même temps, on a des gens qui tentent de résister face à ça et qui sont en train de vivre encore dans cet islam traditionnel. Simplement, ce phénomène de salafisation que nous voyons, qui est minoritaire, mais qui a un impact d'un point de vue majoritaire, et on a l'impression que l'islam ultra-orthodoxe, parce que c'est un islam ultra-orthodoxe, ça devient l'islam de l'alpha et de l'oméga de tout le monde. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de problématiques et de problèmes qui sont liés à cette visibilité de cette expression du religieux, à cette politisation du religieux. Il ne faut pas, je dirais, la nier, mais en même temps, il faut pouvoir aussi la compléter avec de la nuance et de la complexité.
Fabien Truong, ça y est, on vous a. Bonsoir.
Bonjour, je suis désolé, j'ai eu un problème de téléphone.
Vous êtes où ?
Je suis en Angleterre là, actuellement.
Ah bah voilà, c'est pour ça. Depuis le Brexit, rien ne va plus au niveau des liaisons téléphoniques. Vous êtes donc sociologue, professeur à l'université Paris 8. J'ai cité votre dernier ouvrage, Loyauté radicale, à la Découverte en 2017. Alors on a commencé l'émission en essayant de définir ce qu'on pouvait mettre sous le terme d'islamisation, avec cette idée que ça pouvait couvrir beaucoup de choses et qu'il y avait besoin avant tout, quand on évoque ces questions, d'aller dans la complexité, de ne pas être ni à charge ni totalement à décharge. Est-ce que c'est votre point de vue à vous aussi ?
Bah, tout à fait. Enfin, de toute façon, c'est vrai que la difficulté avec ce terme, c'est que c'est un terme qui est devenu extrêmement idéologique. Et en fait, quand on réfléchit avec des mots, comme sociologue, il faut toujours se demander en fait que disent les mots. Et c'est vrai que derrière l'islamisation, je sais pas si on parle de ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, par exemple le halal, le ramadan, si on parle de la question de la misogynie, qui est un sujet, si on parle de la question de l'éducation théologique, si on parle de la question de l'idéologie islamiste, si on parle de la question des habits, du prosélytisme religieux, de l'antisémitisme, enfin vous voyez, je pourrais faire une liste comme ça un petit peu à la Prévert, et on voit très bien que quand on parle d'islamisation, très souvent, eh bien on entend tel ou tel terme. Donc en fait, moi je pense que c'est pas vraiment un terme qui qui est utile, en fait, si on veut parler de la question du rapport religieux ou de la religiosité, puisque c'est souvent ça qui est les questions.
Sauf à considérer que ce terme d'islamisation regroupe, permet de rassembler justement toutes les notions que vous avez évoquées auparavant.
Justement, c'est un peu, quand on regarde les pratiques ordinaires et les pratiques ordinaires dans le temps et dans leur nuance, en fait, on voit bien qu'il y a assez peu de rapport entre ces choses-là. Enfin, c'est des choses qui touchent à la question de la religiosité et la question de l'islam, mais on est sur des phénomènes qui sont pas, voilà, on n'est pas dans des phénomènes d'addition comme ça, parce qu'après, très très vite, on est dans des rapports pour ou contre, alors que finalement, on se rend compte que derrière ça, c'est surtout la question de la visibilité, la religion musulmane, et surtout de la concentration de cette visibilité dans certaines zones, et c'est très souvent, en toile de fond, la question de la politisation, de la publicisation, la religion, la religiosité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, et avec une question sous-jacente derrière ça, qui est, est-ce que derrière cette politisation ou cette publicisation, est-ce qu'il y aurait en parallèle un système de valeurs, en fait, porté par cette politisation ou cette publicisation, qui entérinerait une sorte de contre-société hostile aux valeurs de liberté, d'égalité, fraternité. Et ça, c'est pas des questions qui se recoupent et qui s'additionnent comme ça. Et donc c'est des choses différentes. Donc je pense qu'on peut parler de choses plus simples d'une certaine manière et pas d'utiliser ce mot un petit peu fourre-tout qui du coup empêche de penser la nuance et de poser les choses aussi en termes de pour ou contre la religion musulmane, parce que au fond très souvent c'est comme ça que les débats se posent à la fin, et c'est pas vraiment à la hauteur des enjeux.
Anne-Bénédicte Hoffner, est-ce que ces différentes manifestations, vous les avez observées dans le cadre de votre reportage ?
Alors, en fait, justement, ce que je voulais dire, c'est que là, c'était un reportage et on avait choisi cet angle-là, vraiment, du salafisme, au sens d'un discours qui est vraiment en opposition avec les lois et les valeurs de la République. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le travail de la Croix, en général, on parle surtout, et le plus souvent, de cet islam, classique, traditionnel, qui effectivement est plus visible. Il y a une forme de retour à la pratique, mais le plus souvent on essaye de parler de cet islam majoritaire, en tout cas qui est vécu en France. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, tout est toujours imbriqué. Je peux dire, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais pas des idées très claires sur l'islam. Donc, en tout cas, je ne suis ni pour ni contre. Ce que je peux juste dire, c'est que la Croix a plutôt un regard bienveillant sur les religions en général, et donc y compris l'islam. Donc, je vais faire un sujet au moment du Ramadan, pour dire qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan pour un croyant, quelle expérience spirituelle il vit. Et donc je suis allée dans une mosquée dans le nord de la France, et il y a eu en fait tout un tas de petits événements que j'avais du mal à articuler avec mon angle. Donc quand je suis arrivée, l'imam a commencé à me dire que le Ramadan c'était surtout une période pendant laquelle il fallait réinformer les fidèles sur la situation à Gaza et collecter de l'argent et tout ça. Bon, et hop, après le secrétaire général de la mosquée me dit, ah non, en fait il faudrait pas que vous en parliez, voilà. Bon, après donc j'ai eu un cours d'un converti à des convertis. Rachid verrait assez bien le genre, très planant, très atemporel, à je sais pas quoi. J'ai entendu des petites filles hyper mignonnes, très engagées, qui mettaient la table pour tout le monde le soir pour le repas partagé, et qui me disaient, le Ramadan c'est super parce que chez nous on regarde plus la télé, on prend les repas ensemble, c'est vraiment une période qu'on adore et tout ça, voilà. Donc vraiment super conversation. Puis à la fin, et pendant le Ramadan on a pris une décision vraiment importante, à partir de maintenant on va porter le voile tout le temps, comme ça on n'ira pas en enfer. Je dis voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que même, et vraiment c'est notre souci de parler de cet islam classique en allant dans une mosquée, et voilà, c'est là qu'on voit la complexité, c'est que tout ça se mélange, quoi, en fait.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi bien l'interpréter du point de vue d'une islamisation qui serait problématique que, au contraire, finalement, de pratiques qui participeraient à une forme, justement, de coopération au sein d'une communauté qui serait tout à fait positive?
Ah, enfin... Oui. Non, mais il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que dans cette mosquée, on voyait à la fois que le Ramadan était un moment vraiment de partage, de solidarité, etc. Et en même temps, on voit très clairement un discours qui est le discours majoritaire aujourd'hui dans l'islam sunnite, et qui est, c'est tout le problème que décrit Rachid Benzine dans ses ouvrages, qui est décontextualisé et qui est même inconsciemment, en fait, finalement, en pas forcément volontairement, mais en contradiction avec certaines pratiques ou avec, en fait, qui juste ne proposent pas aux fidèles, c'est ça qui moi me sidère toujours, qui ne proposent pas aux fidèles une manière d'être musulman ici et maintenant.
Fleur Thomassé.
Sachant que ce qui est frappant aussi, ce qui semble avoir été frappant à Ecquevilly, c'est aussi l'influence de ce discours-là sur la société. Et parce que nous parlait beaucoup de l'emprise de cet imam sur le reste de la société, c'est quelque chose aussi de très subtil. Et il y avait une travailleuse sociale qui nous disait c'est très insidieux la perte de liberté. Ça commence par un truc, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, à Ecquevilly, c'est pas tout d'un coup des grands méchants qui sont arrivés et qui ont forcé tout le monde à faire je sais pas quoi, qui serait contraire à la République. Mais c'est cette personnes, puis un groupe de 5, puis 10 qui ont, par leur pratique, par leur manière de vivre, marqué progressivement l'espace social, à tel point qu'à un moment, ceux qui voulaient pratiquer un islam différent, ou pas d'islam du tout d'ailleurs, se retrouvaient mis en difficulté dans leur vie quotidienne, dans leurs rapports sociaux, et c'est là quand même qu'il y a quelque chose de à la fois de subtil et puis de très difficile à percevoir et à combattre.
Rachid Benzine, j'ai évoqué en ouverture de cette émission l'ouvrage sous la direction de Gérard Davé et Fabrice Lhomme, Inch'Allah. Alors il s'agit pas de faire une discussion sur le contenu de l'ouvrage, sans qu'on les aurait invités, mais enfin c'est un exemple parmi d'autres d'enquête sur ces questions de la place de l'islam et de la façon dont il s'organise aujourd'hui en France. Mais ils mettent beaucoup en avant dans les différentes interviews, il y en a eu beaucoup auxquelles ils ont participé, la prééminence des faits, en disant voilà, les faits, en gros, les faits, rien que les faits, toujours les faits. Est-ce que les faits, pour vous, Rachid Benzine, je ne vais pas vous demander s'ils sont importants, mais en tout cas, est-ce qu'ils se suffisent à eux-mêmes pour comprendre l'évolution et la place que prend l'islam aujourd'hui dans la société, ou bien est-ce qu'il faut d'abord les interpréter ?
Je pense qu'il n'y a pas de faits bruts, il n'y a que des faits interprétés. Et interpréter dans une logique argumentative. Je pense que lorsque vous accumulez des faits, au bout d'un moment, vous pouvez montrer le tout et le contraire. Je crois que ces faits-là, s'ils ne sont pas mis en perspective des changements sociaux qu'a subi la société française, je le dis encore une fois, il y a 50 ans, il y avait 300 000 immigrés avec une appartenance religieuse qui relevait du privé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des Français de confession musulmane représente 10%. Donc, automatiquement, il y a une visibilité, il y a une présence de l'islam au sein de cette société.
Mais il y a aussi une volonté d'être plus visible, non ? Il y a quand même, par exemple, d'un point de vue strictement empirique, on ne voyait pas avant de femmes entièrement voilées, d'hommes avec des habits musulmans. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette visibilité accrue ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le signe justement d'une islamisation ?
C'est le signe à la fois de la troisième génération qui est dans une quête identitaire, et cette quête identitaire, elle passe par le vestimentaire et l'alimentaire, et parfois par un discours de valorisation de l'islam lorsque ces jeunes ne trouvent pas un autre discours pour pouvoir se construire. Mais il faudrait lire ça aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'islam depuis une cinquantaine d'années. Depuis 50 ans, l'islam a changé de visage. C'est-à-dire que nous avons eu une espèce de wahhabisation de l'islam mondial à travers les pétrodollars et un certain nombre de discours de rupture. Il y a eu un discours, je dirais, politique de l'islam qui, lui, a commencé à exister notamment à travers les frères musulmans, à travers le salafisme. Et il est clair que l'islam français est impacté aussi par ce type de discours que nous trouvons dans les réseaux sociaux, que nous avons trouvé pendant très très longtemps avec certain nombre de prédicateurs.
Ces signes extérieurs de l'islam et en particulier du salafisme, vous en avez quand même trouver des traces dans votre enquête, Fleur Thomassé, à Ecquevilly.
Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a montré aussi, ou ce qu'on a cherché à montrer dans ce qu'on avait constaté, c'est-à-dire que la mosquée a beau être fermée, ça ne met pas fin effectivement immédiatement. Donc là, on parle de la manière de s'habiller, de la manière de s'alimenter, mais je reviens sur ce que vous disiez. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la rencontre entre une certaine pratique ou une certaine lecture de l'islam et une population, si vous voulez, la troisième génération, les jeunes Français aujourd'hui. Si finalement, la question, c'est pourquoi le discours prend sur ces jeunes-là. Et c'est là que, peu importe à la limite la manière dont ils s'habillent ou leur pratique, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent dans cet islam, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce que la République aussi ne leur offre pas comme identité, ou de quoi ils n'arrivent pas à se saisir dans la République. Et c'est cette rencontre-là entre les deux qui crée le phénomène d'abord, et puis qui doit guider les réponses qu'on apporte.
Dans votre livre, Fabien Truong, vous parlez d'un phénomène de reconversion. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ?
Je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que j'entendais de parler de tous les intervenants. Et quand je parle de reconversion, en fait, c'est aussi la question de la recontextualiser la religiosité dans le temps, à travers le temps. C'est-à-dire que ce que je montre, et dans mon livre, justement, pour être très contextualisé, hein, dans mon livre, je parle du rapport à la religiosité des jeunes garçons de cité qui durent longtemps dans la délinquance, et pourquoi, en fait, justement, comme il a été dit tout à l'heure, eh bien, une certaine entrée dans la religiosité répond à des problèmes tout à fait concrets. Alors, j'en donne beaucoup dans le livre, mais pour donner un exemple, la question de la moralité, en fait. Il faut savoir que quand vous êtes délinquant pendant une durée importante, eh bien, ce qui se développe beaucoup, c'est une forme de haine de soi. Cette idée qu'on fait du sale, c'est une expression qui revient souvent. L'idée que ce qu'on fait, c'est pas bien, qu'on ne peut pas le valoriser aux yeux des autres. Je montre aussi que ce qui joue beaucoup, en fait, chez ces jeunes-là, c'est des conflits de loyauté, en fait, que le quartier produit de multiples conflits de loyauté. Et d'un seul coup, eh bien, l'entrée dans la religion permet notamment d'avoir une forme de sentiment de consistance de soi, d'avoir une version morale et moralisée de soi. Ce mode très contextualisé d'entrée dans la religion et dans la religiosité, il existe parce qu'il répond à des problématiques tout à fait concrètes. Et pour revenir sur cette histoire de conversion, reconversion, moi je suis des trajectoires dans le temps et je montre qu'il y a, pour le dire un petit peu vite, qu'il y a une entrée qui se joue sur le mode du spectacle, en fait, dans l'entrée dans la religion, donc qui se joue sur le mode de la conversion. On en fait trop, on publicise, on se fâche beaucoup avec tout le monde, hein, contrairement aussi à ce qu'on entend souvent sur l'idée du communautarisme, cette entrée spectaculaire et excessive très souvent dans la religion est souvent vecteur de conflits au sein de la communauté dite musulmane, conflits avec les parents, les papas notamment. Et puis, quand on suit les trajectoires dans le temps, vient souvent un deuxième moment, c'est la norme de reconversion, et c'est un moment où l'engagement religieux, peu à peu, pas à pas, prend place à côté, en fait, d'autres engagements sociaux qui le précèdent. Alors, la problématique, c'est quand les jeunes n'arrivent pas à quitter ce stade du spectacle, en fait, ce stade de la conversion.
Et oui, parce que j'allais y venir, justement, Fabien Treuvant, je voulais vous poser la question suivante, c'est-à-dire que est-ce que, justement, au-delà de ce qui pourrait apparaître comme un phénomène, disons, générationnel, enfin, c'est-à-dire à un certain âge, on a besoin de se distinguer d'une certaine manière, et là, on le trouve dans, c'est un peu l'approche notamment de l'islamologue Olivier Roy qui explique qu'on a une radicalisation une islamisation de la radicalité, voilà, je confonds avec dans les barres. En tout cas, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose que vous considérez seulement comme passager et que vous niez le fait qu'il puisse y avoir quand même aussi par moment de véritables ruptures et notamment des ruptures avec le modèle républicain et la volonté de faire sécession de la société, en l'occurrence de la société française?
Non, mais pas du tout, puisque dans mon livre, je montre les deux trajectoires possibles. Donc c'est jamais l'un contre l'autre, en fait, il y a les deux phénomènes, ils existent. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour apporter cette nuance-là. Mais justement, en fait, le jeu de Daesh, ce que j'explique dans mon livre, c'est que Daesh propose un imaginaire politique flottant à ces jeunes qui rentrent dans l'islam sous le mode du spectacle. Et donc c'est un imaginaire politique, et ça il faut bien l'entendre, mais flottant au sens où il ne fonctionne que s'il est décontextualisé, en fait. Et c'est cette décontextualisation, en fait, qui entretient le spectacle, parce que la question de la mise en scène et du spectacle, c'est vraiment un refus de la contextualisation, c'est un refus de la contextualisation dans son propre rapport de novice à la religion, dans son rapport aussi à la tradition familiale, dans son rapport au quartier, parce qu'il y a des histoires complexes aussi de religiosité dans le quartier, c'est pas, tout le monde ne pratique jamais de la même façon, mais aussi des histoires nationales, parce qu'il faut bien comprendre que cette mise en scène, en fait, de la politisation de la religion, elle permet aussi parfois de créer un spectacle de la communauté quand elle n'existait pas. N'oublions pas quand même que les quartiers populaires sont assez hétérogènes quand on parle d'origine ethnique. Et si on s'intéresse à la pratique religieuse musulmane de quelqu'un qui vient du Mali, de quelqu'un qui vient d'Algérie, de quelqu'un qui vient du Maroc, pour en citer encore beaucoup, on voit bien qu'on a des religiosités très très différentes. Donc ce spectacle, en fait, il permet à ces peaux de frais de créer comme ça ce sentiment, effectivement, identitaire pour des jeunes qui peuvent se sentir des affiliés. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir, mais bon, c'est ce que je fais dans le livre, en fait, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'un jeune va pouvoir quitter en fait ce moment de la conversion, ce moment du spectacle, et qu'est-ce qui fait qu'il ne le quitte pas aussi.
Voilà, et à travers voilà, justement l'itinéraire que vous, de ces jeunes, de cette demi-douzaine de jeunes que vous suivez, d'ailleurs depuis plusieurs années. Anne-Bénédicte Hoffner voulait réagir.
Oui, enfin, parce que j'entendais, il y a au moins deux trajectoires, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup plus que ça, je ne sais pas si on peut les réduire. Un de ceux avec qui on a parlé, avec Flore, et qui nous a semblé intéressant, c'était un jeune donc qui fréquentait cette mosquée salafiste. Alors je précise qu'elle n'était pas djihadiste, il n'y a pas eu de départ pour le djihad, il n'y a pas eu de départ ni pour la Syrie ni pour l'Irak depuis Ekevi en tout cas. Et donc c'est un jeune garçon, je ne sais pas, qui avait à peu près 25 ans, qui fréquentait cette mosquée, qui avait une forme d'intégration. Il avait créé une association. Vraiment de service aux personnes de son quartier. Donc il avait le look, le total look salafiste, la robe blanche, etc., la barbe immaculée. Et alors en même temps, c'était amusant parce qu'on a eu une discussion avec lui. Donc il nous a serré la main. Donc après, on lui a demandé, ah bah c'est marrant, vous serrez la main à des femmes. Et il nous a dit, bah oui, mais en fait, je voudrais arriver à ne plus le faire. Alors donc après, on a commencé à discuter avec lui. Ah bon, pourquoi? On est impur et tout ça. Et là où vraiment ça devient intéressant, c'est que donc ce type est, il est vrai, enfin je veux dire, il est sympa. Il nous a expliqué que son engagement associatif était mu. Motivé par sa religion, et en même temps, dans ce qui nous, quand on commençait à le questionner un peu sur, alors comment vous articulez votre foi avec la déclaration des droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes, etc., musulmans et non musulmans, on dit, ah non, mais moi, je suis pas là pour réfléchir, je ne suis pas imam, ma religion me dit de faire ceci, je le fais, ma religion me dit de m'écarter de cela, je m'écarte. Et je suis là pour obéir. Donc, voilà, c'est, je veux dire, ce type est, n'est pas un ancien délinquant, c'est pas un fou furieux du tout. Il a juste vraiment une lecture de la religion qui est extrêmement problématique. Et en fait, simplement, on peut parler avec lui, mais la discussion s'arrête quoi à un moment.
Rachid Benzine, c'est la lecture de la religion, en l'occurrence de l'islam, qui aujourd'hui pose problème.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de l'islam, il y a une véritable guerre sur la question de l'interprétation. Il y a différents types de courants qui sont en guerre et chacun prétend détenir la véritable interprétation ou représenter le véritable islam authentique. Et qu'on a des religiosités qui peuvent être soit des religiosités qui font du lien avec la société, avec la République, avec les valeurs de la République, ou soit on a un type de religieux qui va créer de la rupture. Fabien Thuong parlait de l'idée du spectacle, de la question des conflits de loyauté. Et parfois, le religieux devient un savoir alternatif par rapport au savoir que l'on peut avoir à l'école, le savoir républicain. Et on voit bien que là, nous avons des contre-discours qui peuvent créer des ruptures sur cette idée du vivre ensemble. Et que chaque lecture, elle peut être soit une lecture de paix bienveillante vis-à-vis des autres, vis-à-vis des non-musulmans, soit ça peut être vraiment des lectures incendiaires et que nous avons aujourd'hui cela, mais qu'un texte n'existe pas en soi s'il n'y a pas des interprètes pour le lire et, je dirais, et le pratiquer. Et qu'aujourd'hui, la véritable question qui se pose, c'est à quel type de religieux ont accès à ces jeunes? À quel type de lecture ont accès à ces jeunes? Et on voit bien que tout à l'heure, nous avons parlé de Daesh, parce que pour moi, Daesh représente une idéologie qui est à la fois théologico-politique, parce qu'elle vient répondre à la fois sur le plan religieux et sur le plan politique à un certain nombre de questions que peuvent se poser des jeunes. Que le religieux vient aussi répondre à des questions qui relèvent aussi de la métaphysique, de la question de la mort, de la question de la place de l'homme dans la société. C'est aussi parfois une quête de sens. Et qu'aujourd'hui, nous avons un bricolage religieux avec des jeunes qui ne savent pas du tout lire l'arabe, qui ne savent pas lire un texte religieux. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, dans le discours de Daesh, c'est pas tellement que ces jeunes sachent faire une herméneutique du texte coranique ou de l'exégèse. Ce qui est très important, c'est pourquoi ce discours fait sens pour eux. Et la question, c'est la question du récit de la République. La question, c'est qu'est-ce que nous avons à promettre aussi à ces jeunes. Et il faut bien voir que le religieux vient aussi répondre à beaucoup de jeunes qui sont aussi dans la relégation sociale, etc. Et si nous avons cette concentration-là d'un certain type d'islam dans un certain nombre de quartiers, c'est aussi lié, pas simplement à la question de l'islam, c'est aussi lié à des problématiques qui sont sociales, politiques, économiques, depuis au moins ces 40 dernières années, au sein même de la République.
Oui, mais ça, vous savez ce qu'on va vous répondre quand vous parlez de relégation, et je m'adresse aussi à Fabien Thuong qui veut réagir, c'est-à-dire on va chercher des excuses en cherchant des excuses sociologiques. C'est aussi un reproche qui est souvent adressé, alors parce qu'on fait des reproches aux journalistes, peut-être à certains essayistes, mais on en fait aussi aux sociologues, Fabien Truong.
Oui, bah, enfin, ça, c'est l'éternel débat. Enfin, c'est même pas un débat. C'est-à-dire que le geste de la compréhension, c'est pas le geste des excuses. On n'est pas sur le même niveau. Mais je voulais vraiment rebondir sur ce que disait Rachid Benzine sur la question métaphysique, parce qu'on oublie très fortement cette question. Mais, la religion, c'est aussi un discours qui nous dit quelque chose de la mort. Et, la mort, elle frappe aussi socialement. C'est-à-dire que dans mon livre, toutes les personnes qui sont dans mon livre, tous les garçons, en fait, tous les enquêtés, hein, pour utiliser le jargon sociologique, qui sont dans le livre, ils ont tous perdu des morts violentes des copains. Et donc, ils ont perdu des copains à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. Et il se trouve qu'il y avait très peu, en fait, d'adultes ou d'instances de socialisation qui ont été capables, en fait, de parler de ces questions-là, de faire l'épreuve du deuil, en fait, tout simplement. Et de ce point de vue-là, il est vrai que, entre autres choses, hein, mais la religion se nourrit d'une certaine façon du vide et vient répondre à de vraies questions, des questions qui sont essentielles. Donc dire ça, c'est pas excuser les choses, c'est aussi comprendre pourquoi elles prennent. C'est-à-dire que à un moment donné, elles prennent parce qu'elles répondent à des questions. Et si on fait la transformation, enfin si on regarde la transformation en fait des rapports entre adultes et jeunes à l'échelle des 30 dernières années dans les quartiers populaires, on comprend beaucoup de choses dans ces questions. Voilà, métaphysique, par exemple, qui sont vraiment des questions, je le répète, essentielles.
Fleur Thomassé.
Oui, non, je voulais revenir sur ce débat sociologique. Est-ce qu'on trouve des excuses ou est-ce qu'on n'en trouve pas? Nous, on a quand même été frappés avec Anne Bénédicte par ce quartier où il n'y avait plus de PMI, plus de centres sociaux. La présence de l'État est quand même
PMI,
réduite.
Protection infantile,
c'est voilà, c'est ça. Et qui permet quand même de recevoir les femmes, les enfants. C'est du service public. Ça crée quand même un climat, un huis clos dans cette cité qui est une grande partie du problème. Et il y a une association qui était forte, enfin qui avait mal l'agrément du centre social maintenant, qui est pas dans le quartier mais qui travaille beaucoup avec les jeunes du quartier notamment et les familles du quartier. Et c'est cette association qui réintègre les femmes à des activités, qui les fait re-rentrer dans une sociabilité. Et là, il y a quand même une partie de la réponse, qu'on excuse ou pas, il y a une partie de la réponse qui est sociale.
Il y a un autre élément, moi, qui m'a frappé dans votre enquête, Fleur Thomassé, Anne Bénédicte Hoffner, c'est le soulagement que vous décrivez d'une partie de la population après la fermeture justement de cette mosquée salafiste. Ça veut dire que, oui, si c'est vous, allez-y Fleur Thomassé.
Non, mais j'avais envie de répondre parce que c'est vrai qu'il y a eu un effet de soulagement parce qu'une fois que la mosquée est fermée, ça coupe quand même un peu l'herbe sous le pied à l'équipe dirigeante et qui avait cette emprise ou cette forme d'influence en tout cas sur le quartier. Mais ce qu'on nous
ça
dit,
ça veut dire qu'il peut y avoir une attente aussi de la population de comment dire d'être secouru entre guillemets sur lorsque l'islamisme devient trop important
que la pression se relâche. Oui, je pense qu'il y avait toute une partie de la population, tous ces musulmans qui sont pas dans cette idéologie, qui voulaient que ce soit ce soulagement. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une action des pouvoirs publics qu'il va falloir maintenir sur le long terme et pas seulement sur une fermeture, parce que ça reviendra.
Annette Bénédicte Hoffner pour conclure.
Oui, et donc toujours aussi donc sur cette réponse, le pire, ce serait de répondre à cette salafisation ou voilà, par des fermetures de mosquées et par plus rien du tout. On a dit que la religion répondait à des vraies questions, à un vrai besoin de ces jeunes. Je veux dire, il y en a qui sont vraiment authentiquement religieux, authentiquement croyants, motivés, qui cherchent vraiment à faire la volonté de Dieu, qui cherchent à aller au paradis. Donc c'est des choses qu'il faut respecter et entendre. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les autres musulmans qui tiennent un autre discours les aident à répondre à toutes ces questions existentielles d'une manière qui les aide à trouver et la sérénité et à être constructifs dans la société.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet à la page du Grain à Moudre, franceculture.fr bien entendu. Vous pouvez également télécharger l'émission, vous pouvez nous écrire également depuis notre site. Merci à l'équipe du Grain. Alors merci donc Fabien Truong, Rachid Benzine, Anne Bénédicte Hoffner et Fleur Thomassé. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Jordan Fuentes.